Au terme d'une étude généalogique complète, le moment de la restitution est toujours d'une incroyable intensité. Pour celui ou celle qui a suscité l'enquête et qui l'a confiée à un professionnel de confiance, la découverte de celles et ceux qui, à travers le temps long, ont permis sa propre vie est un acte de sens profond qui peut même s'avérer touchant ou bouleversant. La quête des origines révèle en effet les existences difficiles de ces ascendants, marquées par la misère, les maladies, traversées par les guerres et les grands heurts de l'histoire. Apparaissent des personnages jusque-là inconnus, mais qui vous ont façonné, avec les principaux jalons de leur vie, leur métier, leur enracinement dans une région, un village dont on ne savait rien, et qu'on avait peut-être même traversé au hasard d'une pérégrination touristique en ignorant qu'on se trouvait dans un berceau de sa propre lignée. Pour l'essentiel, ces revenants de l'histoire en sont des anonymes, et il est encore assez rare de croiser des destins illustres dans ces remontées du temps. Paul Vosgien n'en demandait pas tant lorsque je l'informais avoir rempli ma mission et qu'il allait recevoir le podcast de l'histoire de la branche familiale qui l'intéressait, accompagné des documents de référence qui fourmillaient de tous les détails. Je lui réservais pourtant une surprise pour laquelle je ménageais mes effets. Je lui demandais s'il connaissait l'expression « le roi n'est pas mon cousin ». « Oui, vaguement », répondit-il. Je lui en donnais alors le sens. Popularisée en 1690, cette expression renvoie à l'image que représente la plénitude du bonheur. En effet, s'il est de notoriété publique qu'un roi est forcément au summum du bonheur, alors ne pas être son cousin renvoie au fait que l'on est tellement heureux que le roi lui-même n'est pas digne d'être l'un de nos parents proches. Paul m'écoutait, visiblement perdu. Il ne voyait pas où je voulais en venir. « Eh bien, lui dis-je, j'espère que malgré tout, vous serez heureux de savoir que cet adage ne vous concerne pas, parce que justement, vous, le roi, est votre cousin. » Je lui appris ainsi que mes recherches révélaient qu'il se trouvait être le plus clairement du monde le cousin de l'actuel roi d'Espagne, Philippe VI, et du prince Charles, héritier de la couronne d'Angleterre. Oh, certes, le cousinage était fort éloigné, et Paul avait peu de chances de recevoir une invitation au Palais Royal de Madrid ou à Buckingham Palace pour une fête familiale. Mais tout de même, il y avait de quoi apprécier ce clin d'œil de l'histoire. C'est cette agréable curiosité que je veux vous conter maintenant dans une histoire qui prend sa souche dans la petite ville alsacienne de Wissembourg, à la frontière allemande, à la fin du XVIe siècle. Une petite ville marquée par sa situation géographique du fait des terribles batailles qui opposent les puissances de l'époque au cœur de l'Europe. Au sein de la petite cité, la famille Böll est l'une des plus aisées et des plus respectées. L'ancêtre le plus éloigné de notre Paul Vosgien y est Georges Böll. En cette fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, il exerce la profession de boucher, un métier essentiel pour la population, qui est doté de véritables statuts. Les bouchers devaient prêter serment et y rester fidèles. Ils étaient également chargés du contrôle sanitaire, qui se devait d'être aussi strict que possible à une époque où les épidémies étaient fréquentes et se propageaient rapidement. Georges Böll était aussi un bourgeois, un terme dont le sens historique désigne l'habitant d'une ville qui jouit des droits civils et politiques, et notamment celui de voter et d'être élu parmi les échevins de la ville, ce qui correspond peu ou prou à nos conseillers municipaux d'aujourd'hui. Georges est à l'origine d'une lignée de bouchers bourgeois de Wissembourg qui se perpétue avec son fils Georges II et son petit-fils Valentin, lui-même père de 10 enfants. L'aîné nous intéresse ici particulièrement. Jean-Jacques Böll, né en 1632 et mort en 1687. C'est lui qui hérite du commerce familial et il exerce donc comme maître boucher. Son frère Philippe, le cadet, qui a vécu de 1642 à 1712, fait une croix sur l'échoppe familiale et doit faire le choix d'un autre métier. Il sera tricoteur de pantalons et bas de chausses, une profession récente qui satisfait de nouveaux besoins. Il était aussi péagier et faisait donc acquitter l'octroi à l'entrée de Wissembourg. Pour comprendre l'annonce surprise que j'avais réservée à Paul Vosgien, il nous faut maintenant suivre en parallèle la descendance des deux frères, Jean-Jacques et Philippe Böll. mais il va falloir sérieusement vous accrocher et écouter avec attention, car je vais un peu vous submerger d'informations. Je vais d'abord résumer rapidement la lignée de Philippe le cadet. Son fils lui succède et devient tisserand de pantalons. Mais le petit-fils Georges, qui vit entre 1701 et 1782, revient au métier de son arrière-grand-père, la boucherie. Il était de confession évangélique luthérienne, comme sans doute ses ancêtres depuis quelques générations. On l'appelait maître. Il est mort d'une chute un dimanche à l'âge de 81 ans. Son enterrement a eu lieu lors d'une cérémonie publique après un service en l'église Saint-Jean de Wissembourg avec sermon funèbre. Parmi ses enfants, je vais isoler Catherine, Catherine Beul. Elle se marie en 1775 avec un soldat d'un régiment suisse au service de la France. Alexis Voirol est alors en garnison à Fort-Louis, à une trentaine de kilomètres de Wissembourg. Il s'agit sans doute entre eux d'une histoire d'amour, car Alexis n'est pas un beau parti pour Catherine, et de plus, il est catholique. Leur mariage sera d'ailleurs le premier mariage mixte célébré à Wissembourg entre un catholique romain et une luthérienne. Le décret interdisant de telles unions venait juste d'être levé. Catherine va suivre son mari dans sa vie nomade de garnison. Leurs deux enfants naissent ainsi à Belle-Île-en-Mer. Alexis Voirol va combattre jusqu'au bout au service de la monarchie française qui s'effondre. Son régiment est licencié en septembre 1792 par la République triomphante. Une fois démobilisé, il vit misérablement. En quelques semaines, en janvier et février 1795, Alexis et Catherine, sa femme, meurent, quasi indigents, dans un hôpital de Strasbourg, sans que les causes précises des deux décès nous soient aujourd'hui connues. Leur fille, qui s'appelle aussi Catherine, est ainsi une orpheline de 15 ans. On va la retrouver en 1814 dans le Jura, où elle épouse à Mantry Pierre-Joseph Ducret, un ancien canonnier qui a fait toutes les guerres de Napoléon et s'est retiré dans ses foyers pour vivre une modeste existence de cultivateur. Leur fille, Félicité Ducret, unit sa destinée à Henri Guéry, un modeste vigneron de la commune de Mantry. À cette époque, le gouvernement français menait une active propagande pour convaincre un maximum de francs-comtois de s'établir en Algérie pour y développer la colonisation. On leur promettait, une fois sur place, des vivres, un logement, des terres et des instruments aratoires. Henri et Félicité se laissent convaincre et, avec leurs 5 enfants, se rendent à Chalon-sur-Saône où, avec d'autres émigrants, ils embarquent sur un bateau qui, sur la Saône puis le Rhône, les conduit à Lyon, Avignon et enfin Marseille, d'où ils traversent la Méditerranée vers leur nouveau destin. La famille s'installe à Douéra, un petit village au sud-ouest d'Alger. Ce qui fut leur vie dépasse le cadre de cette chronique. Retenez seulement que leur fille Esther se marie en 1866 avec Nicolas Vaugien, un émigré de Lorraine, issu lui aussi d'une famille de vignerons. Ce sont les arrière-grands-parents de Paul Vaugien, dont la quête des origines a fait naître cette histoire. J'ai fait au plus court pour illustrer la descendance de Philippe Beul, qui aboutit à Paul Vaugien. Mais nous sommes bien loin des cousinages royaux annoncés. Pour cela, il faut revenir au frère aîné de Philippe, Jean-Jacques Beul, le maître boucher. Celui-ci laisse à sa mort en 1687 le commerce familial à son fils Jean-Pierre, dont la fille Marie-Madeleine épouse un pasteur allemand de la petite ville palatine de Kandel, Jean Schweppenhauser. Leur fils Henri-Guillaume sera aussi le pasteur de Kandel. Il meurt à 42 ans en 1760. Après nos lignées de bouchers et de tricoteurs de pantalons, nous aurions pu à nouveau dérouler de génération en génération une lignée de pasteurs. Mais tout bascule avec la fille d'Henri-Guillaume, Marie-Salomé, née en 1755. Elle trouve un emploi de femme de chambre de la comtesse palatine à la cour de Bad Bergzabern. Puis elle devient la dame de compagnie de sa fille, la fille de la comtesse, la princesse Caroline, épouse de Louis, prince héréditaire de Hesse-Darmstadt. En 1773, la dame de compagnie, Marie-Salomé, se marie avec Friedrich Hauke, un philologue secrétaire du comte de Brühl. Le comte est envoyé comme diplomate à Varsovie en 1782. Son secrétaire le suit, il deviendra plus tard, sur place, percepteur d'impôts et professeur d'allemand au lycée de Varsovie. L'ascension sociale de la famille va monter d'un cran avec le fils de Friedrich et de Marie-Salomé, Johann Moritz Hauke. celui-ci devient général des troupes russes en Pologne à partir de 1826 et il est élevé au rang de comte par le tsar Nicolas Ier en 1829. Le tsar le nomme également sous-ministre de la guerre en Pologne, mais Johann Moritz est assassiné un an plus tard, en 1830, lors d'un soulèvement populaire. Terrassé par le chagrin, sa femme meurt dans l'année et leurs enfants rejoignent à Saint-Pétersbourg leur grand-mère Marie-Salomé, que nous connaissons déjà. Elle vit à la cour du tsar Nicolas Ier, dans l'entourage de la tsarine, de la famille de Hesse. Parmi les enfants, Julia deviendra à son tour la dame d'honneur de la nouvelle tsarine, épouse d'Alexandre II, Marie de Hesse, encore un mariage entre les Romanov et les Hesse. Julia va se lier avec le propre frère de l'impératrice, le prince Alexandre de Hesse. Celui-ci va l'épouser en 1851, un mariage jugé morganatique. Que recouvre cette qualification ? Eh bien, un mariage morganatique, c'est l'union entre un souverain ou un prince d'une maison régnante avec une personne de rang inférieur. Il est parfois dénommé « mariage de la main gauche » parce que pendant la cérémonie du mariage, le marié tient la main droite de sa fiancée avec sa main gauche au lieu de sa droite. Mais le frère aîné du prince Alexandre, le grand-duc régnant de Hesse-Darmstadt, fera tout de même de Julia une comtesse, puis plus tard une princesse de Battenberg. Et le conte de fées va se poursuivre avec les 5 enfants du couple, tous princes et princesses de Battenberg. Louis, l'aîné des garçons, est devenu sujet britannique. Pendant la Première Guerre mondiale, en raison des sentiments anti-allemands qui prévalaient à l'époque, il a préféré changer son nom de famille. De Battenberg, il est devenu Mountbatten. Je suis sûr que ce nom vous dit déjà quelque chose. Louis est le grand-père maternel du prince Philippe d'Édimbourg, époux de la reine Élisabeth, et donc l'arrière-grand-père du prince Charles. Là, nous y sommes. Accessoirement, Louis était aussi le père du fameux Lord Mountbatten, qui fut le dernier vice-roi des Indes et qui sera assassiné par les terroristes irlandais de l'IRA en 1979. Le frère cadet de Louis, Henri de Battenberg, eut une fille, Victoria Eugénie, qui épousa le roi d'Espagne, Alphonse XIII, dont le petit-fils fut le roi Juan Carlos, qui a régné sur l'Espagne jusqu'à son abdication en 2014, en faveur de son fils, l'actuel roi d'Espagne, Philippe VI. Je crois que j'ai bien tenu ma promesse en vous révélant que le roi d'Espagne et le futur roi d'Angleterre sont bien les descendants du boucher de Wissembourg, Georges Boehl, un privilège qu'il partage avec Paul Vosgien et que celui-ci savoure maintenant, fier de cette ironie de l'histoire.